Face à la deuxième vague de Covid-19, le ministre de la Santé défend bec et ongles le confinement et les restrictions de circulation. Mardi soir à l'Assemblée nationale, Olivier Véran s'est même emporté contre les députés opposés à l'extension de l'état d'urgence sanitaire jusqu'en 2021.
Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici.
Hier, la prolongation de l'état d'urgence a finalement été votée jusqu'en février prochain. Sécurité ou liberté fondamentale, le débat échauffe les esprits.
Vous êtes un régime autoritaire et vous commencez à aller de plus en plus loin dans l'autoritarisme jusqu'à vous mêler des cultes et de la vie quotidienne des gens.
Depuis les attentats de 2015, le recours à l'état d'urgence est de plus en plus fréquent. Terrorisme, crise sanitaire, le quotidien des Français est déterminé par un régime d'exception qui autorise l'exécutif à suspendre certaines libertés publiques et individuelles. Pour le maire de Nice, la fin justifie les moyens. Après l'attentat qui a fait 3 morts dans une basilique du centre-ville, Christian Estrosi appelle à prendre des mesures contraignantes comme la fermeture des frontières.
Trop, c'est trop. Et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamofascisme de notre territoire.
Alors que des Français manifestent leur opposition au confinement,
liberté,
ou à la fermeture de leurs boutiques, peut-on vraiment concilier la sécurité et le respect des libertés individuelles? Face aux crises sanitaires et aux attaques terroristes à répétition, faut-il se résoudre à ce qu'un régime d'exception, l'état d'urgence, devienne la règle?
Le Conseil de défense a-t-il un droit de regard sur les questions sanitaires françaises? Anne-Marie Le Pourriette, on parle tous aujourd'hui effectivement de Conseil de défense sans savoir nécessairement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette instance? Qu'est-ce qui la compose? Quelle est sa mission? Et est-ce qu'elle a effectivement le droit de se prononcer sur des questions sanitaires? Et si oui, depuis quand?
Le Conseil de défense, vous savez, c'est quelque chose de très simple. C'est prévu dans l'article 15 de la Constitution. Le président de la République préside les conseils et les comités supérieurs de défense nationale. C'est vieux comme le monde. Et c'est tout simplement une instance de conseil du président de la République, dans lequel il y a essentiellement des ministres, d'ailleurs, ce qui n'interdit pas au président de la République de convoquer pour l'auditionner des personnalités compétentes dans le sujet. Et il est évident qu'en matière de sanitaire, quand on a une crise de cet ordre-là, il y a bien sûr des interférences avec la défense. C'est ce qu'on appelle la défense en général, hein, la mise en garde en général. C'est-à-dire que une crise sanitaire, ça touche la défense et la sécurité globale. Donc que le président réunisse de plus en plus souvent ce conseil en raison à la fois du terrorisme, de la...
Mais il y a eu 40 conseils de défense.
Oui, c'est vrai. Hein, c'est beaucoup. Alors ça prouve aussi, si vous voulez, mais c'est vieux, je ne sais pas, j'ai pas compté combien en ont réuni les prédécesseurs du président Macron, mais il est certain que face à des crises cumulées, à la fois sécuritaire et sanitaire, c'est normal. Je vous signale qu'on a créé aussi en 2019 un conseil de défense écologique. Hein, donc vous voyez, c'est devenu un mode de gouvernance à la mode.
Dites-vous, justement, face à ces deux menaces, hein, qu'elles soient sanitaires ou sécuritaires, terroristes en l'occurrence, il y a donc ces états d'exception. Et ces états d'exception, bah, c'est du provisoire qui dure. Oui. Frédéric, c'est votre chiffre du jour.
Le chiffre du jour, 847 jours depuis les attentats du 13 novembre 2015, parmi lesquels, pour lesquels la France a vécu sous un état d'exception, qu'il s'agisse de l'état d'urgence antiterroriste ou de l'état d'urgence sanitaire. Jean-Marie Burguburu, quelles sont les différences entre ces deux états d'urgence antiterroriste et sanitaire? Qu'est-ce qu'ils permettent et qu'est-ce qu'ils ne permettent pas?
Il n'y a pas vraiment de différence parce que la cause est la même. C'est une urgence qui paraît, au regard du gouvernement, nécessaire pour prendre des mesures nouvelles, des mesures en principe plus rapidement et des mesures plus contraignantes. Le point commun aussi, c'est la restriction des droits et des libertés. Le problème, c'est qu'une telle restriction est compréhensible. Personne ne dit qu'il ne faut pas lutter contre la crise sanitaire. Personne ne dit qu'il faut laisser passer la pandémie et puis se croiser les bras. Le gouvernement doit agir. Mais doit-il agir avec ce système de l'état
d'urgence? Sur la différence entre les deux systèmes, ils permettent exactement la même chose, vous diriez?
Bon, exactement la même chose. Non, cela dépend de la loi qui le met en place. Le principe de l'état d'urgence, c'est un principe qui modifie le fonctionnement normal des institutions.
Il y a une vraie différence entre les deux types d'état d'urgence.
Sinon, on aurait d'ailleurs appliqué l'état d'urgence de 55 pour la crise sanitaire. On avait déjà des mesures d'urgence dans le code de la santé publique, qui donnait des pouvoirs assez importants au ministre de la santé, mais ça a paru, compte tenu de la gravité de l'épidémie, insuffisant, et il fallait un fondement et surtout faire remonter les pouvoirs au niveau du Premier ministre.
Si vous me permettez, ça paraît suffisant sans qu'on l'ait essayé.
Oui,
Moins essayer dans un premier temps.
Et si on l'a fait jusqu'à la promulgation de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, ils ont fonctionné sur la base des précédentes dispositions.
Avec des arrêtés spécifiques pris par le ministre.
Plus la référence à la jurisprudence du Conseil d'État sur les circonstances exceptionnelles. Donc ils ont déjà pris des mesures d'urgence avant l'état d'urgence sanitaire. Mais ce n'est pas la même chose pour la simple raison que le danger n'a rien à voir. Dans une affaire de terrorisme, vous avez d'abord des gens qui cherchent à porter atteinte volontairement à la vie des autres. Donc il y a une démarche et on va chercher à identifier les personnes susceptibles d'eux. Ici, vous avez un virus qui circule et que nous transmettons, mais à l'insu de notre plein gré, je veux dire. Bon, et donc il va falloir concerne tout le monde. C'est-à-dire que ici, il ne s'agit pas d'assigner à résidence quelques personnes soupçonnées d'eux, mais il s'agit de tous quasiment de nous assigner à résidence.
Alors cette situation sanitaire, en tout cas, elle a conduit le gouvernement donc à prendre ces mesures d'exception qu'on évoquait à l'instant. Et cette décision, elle suscite des réactions virulentes de l'opposition, Frédéric.
Oui, cet état d'urgence met à distance le Parlement, déplore Mathilde Panot, la vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.
Une crise sanitaire doit avoir des réponses sanitaires. Mais vous vous rentrochez derrière des réponses sécuritaires. À l'abri de la décision populaire, le président décide d'un trait de plume combien de temps et selon quelles modalités nous devrons rester isolés. Tel est le poison de la Ve République. Nous lui disons, c'est parce qu'une décision est prise collectivement qu'elle est consentie. Cette gestion de crise solitaire met la démocratie en danger.
En danger, Anne-Marie Le Pourriette, on peut parler d'abus de pouvoir, en l'occurrence.
Non, loin de moi. Je vais vous dire une chose. Nous avons deux premières générations de droits en France. Les droits liberté, ceux qui sont concernés ici par le confinement, par les limitations à la liberté des liens. Et puis nous avons aussi une seconde génération auquel les Français sont très attachés, ce sont les droits créances, les droits économiques et sociaux. Et pour réclamer le droit à la sécurité, pour réclamer le droit à la santé, pour réclamer le droit à ceci, à cela, ils sont très forts, les Français. Si vous regardez les requêtes qui ont été portées devant le Conseil d'État pendant la première vague de l'épidémie, d'abord, ça a été des gens qui expliquaient que le gouvernement n'en faisait pas assez. Il y a quand même un syndicat des jeunes médecins qui a voulu faire prescrire au gouvernement par le Conseil d'État le confinement total de la population avec interdiction totale de sortir de chez soi et ravitaillement à domicile. Et les premiers recours qui ont été faits étaient des recours contre la carence gouvernementale, lui demandant d'en faire bien plus pour réprimer les libertés. Donc vous voyez qu'il y a dans la société civile des demandes très contradictoires.
Jean-Marie Burguburu, est-ce qu'il y a abus de pouvoir ou concentration excessive des pouvoirs, comme le reproche l'opposition au gouvernement actuel?
Ma réponse doit être très précise. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, je vais être clair, ça n'est pas la France insoumise. Il n'y a pas de confusion. Et j'insiste, car l'avis que nous donnons est un avis qui est de dire oui, il faut lutter contre la pandémie, mais il faut respecter les droits de l'homme. Entre-temps, je ne dis pas que la France est devenue une dictature. Je dis qu'il y a une concentration des pouvoirs. Je dis qu'il y a sans doute des moyens de faire autrement et différemment.
Ça veut dire que vous êtes consulté avant que l'exécutif prenne ce type de décision?
Alors là, vous me faites un peu de peine, effectivement, parce que si nous sommes consultatifs, nous ne sommes pas consultés, effectivement. Mais le gouvernement n'a pas d'obligation de nous consulter. Et s'il nous consultait, je ne suis pas sûr qu'il suivrait nos avis. Mais nous sommes là et nous parlons.
Mais il ne vous les demande pas, vos avis.
Il ne nous le demande pas, par exemple. Regardez,
le Conseil d'État est consulté
systématiquement. Est-ce que vous auriez suivi le gouvernement sur ces... Sur ça.
Je n'ai pas à suivre le gouvernement.
Vous auriez dit quoi si vous aviez été consulté concrètement?
Ça dépend sur quel sujet. Est-ce qu'il s'agit du sujet global?
Sur l'état d'urgence sanitaire, sur le confinement.
Le principe de l'état d'urgence est un principe général, effectivement distinct en matière d'urgence sanitaire qu'en urgence antiterroriste on le comprend bien, mais qui donne les mains libres au gouvernement, avec ensuite un contrôle a posteriori par le Parlement. On a vu le débat récemment sur la durée de l'état d'urgence numéro 2. Le problème est de savoir si, justement, on n'aurait pas pu plus longuement et plus profondément utiliser, par exemple, le fameux article L3131-1 du Code de la santé publique.
Qui dit quoi en deux mots, cet article ?
Il donne au ministre de la Santé, qui déjà est très présent, des pouvoirs pour prendre les mesures adéquates en matière d'épidémie, en matière de danger sanitaire. C'est-à-dire d'ordonner justement
de cet état d'urgence sanitaire.
Je vous précise, très simple, cet article-là concerne l'arrivée d'une épidémie, alors que l'état d'urgence sanitaire concerne... Ça y est, elle est là.
On est des garde-fous, puisque l'opposition, évidemment, ne peut pas faire grand-chose. Le Parlement non plus, dans cet état d'urgence. On attend de plus en plus les décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, Jean-Marie Burguburu. Ce sont, j'allais dire, les derniers contre-pouvoirs vraiment puissants.
Et bien sûr, les deux juridictions en question sont des contre-pouvoirs puissants, mais parfois il leur arrive de suivre les avis de la CNCDH. Lorsque la CNCDH a rendu...
Commission consultative des droits de l'homme.
Et j'y reviens. Oui, la CNCDH, c'est l'acronyme facile, parce que sinon c'est un peu long le titre. Lorsque nous avons rendu un avis réservé, pour ne pas dire négatif, sur la loi Avia, la loi a quand même été votée, le Conseil constitutionnel l'a démolie, n'a laissé qu'un article sur quatre, j'allais dire, conformément à ce que nous avions prévu et demandé. Donc, nous travaillons ensemble. C'est normal qu'il y ait plusieurs en France, dans la France républicaine, et où l'aspect juridique est important, car le droit est bien sûr un vecteur important de la protection des droits de l'homme. Il est normal qu'il y ait plusieurs niveaux, le Conseil constitutionnel tout en haut, le Conseil d'État, parfois aussi les juridictions judiciaires, et puis d'autres organismes, comme la CNCDH, et puis je peux citer aussi, dans le domaine qu'est le sien, la défenseure des droits.
– Il y a aussi, Anne-Marie Le Pourriette, parfois évidemment des injonctions contradictoires, en tout cas d'autres impératifs, je pense à l'impératif sanitaire, qui fait par exemple sur le reconfinement en vigueur actuellement, on entend de plus en plus de médecins dire « il faut des mesures plus rigoureuses, ce reconfinement est trop souple, le gouvernement serait en train de rater ce reconfinement. »
Oui, absolument, et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a eu 90 plaintes à la Cour de justice de la République pour mettre en cause la carence des autorités françaises. Donc vous voyez bien que moi j'aimerais pas être gouvernant actuellement, parce que les pauvres, ils se disent si je le fais pas, je vais me taper un procès devant la Cour de justice. La société civile française qui veut tout est son contraire. On a généré une société d'ayant droit. Et moi, j'observais toute la liste des recours qui a été fait au Conseil d'État pendant la première vague. Et je me disais quand même, on n'est pas loin d'une prime à l'incivisme. C'est la remise en cause systématique de mes droits, ma liberté à moi, au détriment de l'intérêt général, ça pose quand même, ça rend pas les requérants sympathiques.
Ouais, et sur ces injonctions contradictoires, on voit dans le même temps que trois quarts des Français sont favorables aux mesures sanitaires qui sont prises par le gouvernement. On voit aussi qu'Emmanuel Macron voit sa cote de popularité augmenter quand il fait des allocutions pour serrer la vis, j'allais dire.
Oui.
Comment vous analysez ça ? Est-ce qu'il y a une forme de servitude volontaire, voire désirée dans la population ?
Servitude volontaire, le mot est joli, mais il est un peu trop fort. Malgré tout, la crainte sanitaire, la crainte de la santé, la peur de la mort dont on ne parle plus, est un vecteur puissant. On a été étonné pour la première crise sanitaire que les Français acceptent aussi facilement le masque sans doute, mais aussi le confinement. Car le confinement, alors...
Avait-il le choix ? Pardon, ils ont accepté, mais c'est tombé d'un coup net. Avait-il le choix ?
Attendez, l'amende...
On parle de l'acceptation.
...est importante, mais l'acceptation globale. S'il y avait un mouvement où 100 000 personnes sortaient de chez elles, qu'aurait fait la police ? Elle n'aurait pas tiré dans le tas. Alors qu'en Chine, si les gens restaient chez eux, c'est qu'on savait qu'ils étaient... on leur tirait dessus ou on les mettait en prison s'ils sortaient. En France, il y a eu une acceptation qui, semble-t-il, n'est plus aussi forte maintenant.
Oui, c'est clair.
Donc, les gens se posent des questions. Et pourtant, il est vrai que les derniers sondages sont favorables au gouvernement.
En,